Alors d'abord, je voudrais partager avec vous ce qui est plutôt un ensemble de réflexions personnelles. Et pour parler d'éducation, je voudrais d'abord remercier Sébastien Condel, qui a été mon professeur de mécanique des fluides, qui m'a donné le goût de la beauté de certaines équations qui sont clés, par exemple, pour la modélisation du climat. Et c'est juste pour souligner l'importance de l'éducation et ses conséquences à long terme. Alors d'abord, pour parler de réchauffement climatique, je veux démarrer par l'état des lieux et les faits. Et vous avez là une comparaison des différentes sources permettant d'évaluer le réchauffement global par rapport à ce qu'on définit ici comme pré-industriel, la période 1720-1800. Donc une tendance lourde depuis 1900, un réchauffement qui atteint depuis 1900 environ 0,9 ou 1 degré et qui se poursuit depuis 1970 au rythme d'environ 0,17-0,18 degrés par décennie. Alors c'est intéressant cette figure-là, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel quand j'enseigne. Quand je parle de changement climatique, on y voit l'incertitude, on y voit également la variabilité spontanée du climat avec les événements El Niño qui correspondent à des pics, et on y voit également cette tendance au réchauffement, avec également la nécessité d'expliquer que le futur ne peut pas être évalué par une extrapolation de courbes, ça c'est un point qui est extrêmement important, mais par la prise en compte des facteurs qui vont jouer sur la variabilité et sur l'évolution du climat à partir de la compréhension des mécanismes physiques en jeu. Je vais également mentionner l'état des lieux par rapport à la perturbation due à nos activités. Et je ne la représente pas comme d'habitude par rapport à la concentration en gaz à effet de serre, puisque ce n'est pas celle-ci qui agit directement sur le climat, c'est par son effet sur les échanges de rayonnement en termes de perturbation radiative qu'on mesure en watts par mètre carré. Et je ne montre pas non plus l'influence de l'homme sur le climat en termes d'effet net, mais par le taux de croissance de l'effet des gaz à effet de serre sur le climat. Pourquoi ? C'est simple. Si on veut stabiliser l'évolution du climat, il faut stabiliser l'effet de serre. Et pour cela, il faut que le taux de croissance devienne nul, puis négatif, de cet effet de nos gaz à effet de serre sur le climat. On voit que ça n'est pas le cas. On voit qu'il y a une augmentation sur plusieurs années qui se poursuit pour le dioxyde de carbone qui a l'effet le plus important. On est reparti à la hausse pour le méthane. Et puis, on a un effet qui reste significatif pour les gaz traces, avec quelques bonnes nouvelles récentes sur la programmation de l'élimination de certains de ces gaz traces par l'élargissement du protocole de Montréal. Pourquoi parler d'éducation au changement climatique ? Les enfants, ça représente 30% de la population mondiale. Ils sont souvent dépeints comme des victimes, comme particulièrement vulnérables. La continuité de l'accès à l'éducation n'est pas encore une priorité dans les plans de prévention des risques et de l'adaptation au changement climatique. Et je vais prendre un exemple récent. Des crues spectaculaires dans la vallée de l'Yvette où j'habite, du côté de la Loire, de la Seine récemment. 200 établissements scolaires, maternels, collèges, lycées et même l'université d'Orsay qui ont été touchés près de chez moi, sont construits dans les zones qui n'ont pas de valeur commerciale, souvent les zones exposées à l'aléa inondation. Une étude récente qui a été portée sur cet événement de pluie torrentielle au printemps suggère qu'il y a une influence discernable de l'activité humaine sur cet événement et que ce type de situation pourrait être amené à se reproduire et se renforcer dans un changement climatique non maîtrisé. C'est un exemple pour la France récent, mais cette situation, on va le retrouver à grande échelle. Donc l'éducation ne fait pas partie des priorités dans les plans d'adaptation aujourd'hui. Et puis les enfants, ils sont aussi porteurs de droits à travers la Convention internationale des droits de l'enfant. Comment assurer leur participation aux prises de décisions les concernant ? Et les décisions concernant l'adaptation, concernant l'atténuation, les transformations associées aux politiques climatiques vont les concerner au premier chef pour les décennies à venir. Alors l'éducation, elle est mentionnée dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, elle est rappelée dans l'article 12 de l'accord de Paris. Elle est très peu présente dans les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Elle n'est que mentionnée brièvement dans le rapport de synthèse avec la dimension d'outils pour l'adaptation, pour la transformation, avec dans la partie sociale des options d'éducation, des options d'information, des options par rapport au comportement, parmi différentes sphères de changement. Et étonnamment, l'éducation n'est pas mentionnée par rapport à l'atténuation, c'est-à-dire ces transitions majeures, agricoles, forestières, énergétiques, qui sont indispensables pour maîtriser l'évolution du climat, alors qu'à mon sens, elles devraient jouer un rôle fondamental également dans cette dimension-là. Par ailleurs, la jeunesse d'aujourd'hui, dans la plupart des pays développés et de plus en plus dans les pays émergents, trouve ses informations sur Internet. Alors j'ai fait une recherche hier soir rapidement, j'ai tapé « changement climatique » sur le moteur de recherche le plus couramment utilisé. Alors vous avez « le changement climatique polarise les Américains », donc l'analyse des croyances en fonction des opinions politiques, une fonte record de la banquise sur ces dernières semaines, sans forcément être située dans un contexte plus large. Leonardo DiCaprio avec son film récent, donc la parole donnée aux stars. Et puis, une présentation assez alarmiste sur le risque de désertification du sud de l'Europe. Et enfin, la dernière nouvelle que j'ai trouvée, la note du changement climatique va être salée pour les jeunes, avec une analyse en termes de justice intergénérationnelle, dont les outils essentiels ne me paraissaient pas tout à fait transparents sur leur validité scientifique. Et donc finalement, ce que je veux mentionner, c'est que si on n'a pas de repères par une éducation d'ensemble avec des piliers pour donner sens à ces informations parcellaires, c'est comme si on regardait le détail d'une peinture impressionniste. C'est vraiment l'image que j'en ai. C'est-à-dire, on a des patchworks d'informations disjoints, pas toujours cohérents, sans fil conducteur. Et à mon sens, l'éducation aux sciences du climat et au changement climatique, elle est indispensable pour permettre de situer chacun de ces petites taches de peinture qui est une actualité dans une image d'ensemble. Et je suis désolée de le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, même malgré les efforts très profonds qui ont été faits en France pour construire une éducation au développement durable, pour parler de changement climatique à toutes les étapes, je le vois avec mes enfants de 15 et 18 ans, on n'a pas encore réussi à leur donner des repères pour avoir cette image d'ensemble. Et je ne parle pas des adultes d'aujourd'hui qui n'ont eu aucune éducation au changement climatique et donc qui se forgent leur propre opinion à travers leur lecture de ces éléments de patchwork. Alors pourquoi et comment construire une éducation aux sciences du climat ? Alors j'aime bien l'expression anglaise, « climate literacy ». Je trouve qu'elle est assez jolie et ce serait utile de forger des termes un peu similaires en français. Je pense que c'est d'abord le système climatique, c'est un système passionnant d'un point de vue scientifique. C'est un système complexe, et comme pour tous les systèmes complexes, on peut faire une analogie avec la santé, on peut faire une analogie avec l'astrophysique, on ne va pas reposer sur des démonstrations simples, mais sur un ensemble d'observations du passé et d'aujourd'hui qui sont imparfaits, sur la compréhension des processus et sur la modélisation. Comment expliquer la modélisation ? C'est vraiment un défi majeur, à mon sens, essentiel. Quelles sont les méthodes mises en œuvre pour identifier dans un système complexe les causes de changement et les conséquences de ces changements, et en particulier dans un système qui produit une variabilité spontanée. En termes d'enseignement, de démarche scientifique, il y a vraiment une ouverture énorme pour montrer les sciences passionnantes qui se font. Il y a également des notions clés. Par exemple, pour le cycle du carbone, la notion de stock et de flux, mais qui peut être abordée dans tellement d'autres domaines, et qui reste souvent mal comprise à l'issue du système secondaire. La notion de rétroaction, de cercle vicieux en fait, ou de cercle stabilisateur. C'est aussi des notions qui sont peu transmises par l'éducation aux mathématiques classiques, même au lycée. Et puis la diversité des échelles de temps et d'espace, ces aspects-là me semblent essentiels dans la construction d'une éducation aux sciences du climat, dans le cadre plus large, bien sûr, d'une éducation aux sciences. Alors quelques exemples que j'aime bien. Le premier, c'est l'évolution de la température récente, la tendance au réchauffement depuis 1900 qui est en rouge, dans le contexte des variations de la période interglaciaire actuelle qu'on appelle l'Holocène, qui était une période de climat relativement stable. Alors c'est la seule estimation qui existe à ce jour. Elle a une résolution de 1 à plusieurs siècles, la courbe en bleu. Elle est imparfaite, mais elle permet de discerner déjà cette rupture qui est à l'œuvre par rapport à l'amplitude et au rythme des variations climatiques passées. On enseigne l'histoire des civilisations dès l'école primaire. Pourquoi ne pas donner des repères par rapport aux variations climatiques passées au même moment, quand on parle de la préhistoire, quand on parle de l'émergence de nos civilisations ? Parce que comment veut-on que quelqu'un comprenne ce que représente 1, 2, 3 ou 4 degrés de réchauffement sans ces quelques repères par rapport aux variations passées ? Et le deuxième exemple, c'est un des résultats clés du dernier rapport du GIEC. La courbe en noir représente l'ampleur du réchauffement observé. La courbe en vert, celle qui est attribuée à l'influence de l'homme via l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, qui est un petit peu compensée en orange par l'effet refroidissant des particules de pollution. n'existe aucune autre explication au réchauffement perçu à ce jour. Et je pense que cette analyse-là, les outils sous-jacents, qui sont en fait extrêmement complexes, méritent d'être expliqués pour arriver à faire comprendre comment on parvient à cette conclusion qui est essentielle vis-à-vis de l'influence de l'homme sur le climat. Donc comment déconstruire finalement un résultat qui semble simple, mais qui repose sur un ensemble d'outils complexes. Et puis il n'y a pas que les sciences du climat, bien sûr, mais il y a plutôt une éducation également plus large au changement climatique. Et à mon sens, cela demande d'aborder le court et le long terme, le local, le régional et le global, avec deux dimensions, bien sûr, la dimension des risques, des vulnérabilités, des impacts et des options pour l'adaptation, mais aussi les limites à l'adaptation, la maladaptation, et puis d'autre part, les options d'atténuation. Et là, j'ai une certaine frustration, parce que souvent, ce qu'on met en avant vis-à-vis de la jeunesse, ce sont des tout petits projets, avec des tout petits gestes, mais sans vraiment évaluer l'ampleur de la transformation sous-jacente, si on veut respecter les termes de l'accord de Paris, c'est-à-dire aller en quelques décennies, à une société neutre en carbone. Et pour cela, il me semble essentiel, dans cette éducation au changement climatique, de donner des outils de concertation. Les initiatives, par exemple, pour faire jouer aux élèves, les négociations de la COP21, ça a été formidable. Parce que c'est un outil aussi pour se mettre à la place des uns et des autres, pour comprendre le rôle des différents acteurs dans les négociations. Et donner également des outils de transformation, en travaillant sur les grandes transformations passées de nos sociétés, par exemple, avoir cette réflexion en profondeur, je pense que c'est extrêmement important pour être prêt et pour donner de la puissance, finalement, à cette jeunesse qui sera acteur de transformations majeures. Et puis, pour finir, voici une analyse des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec différents objectifs. Donc, la poursuite de l'augmentation en vert, c'est celle qui nous conduit à un réchauffement très important, 4 ou 5 degrés, d'ici à la fin de ce siècle et qui se poursuit encore plusieurs siècles. Les scénarios compatibles avec un réchauffement de moins de 3 degrés, ce sont des scénarios où les émissions de gaz à effet de serre piquent rapidement, diminuent fortement, et pour un réchauffement de moins de 2 degrés, cela implique la capacité à déployer des méthodes pour extraire du CO2 de l'atmosphère, ce qu'on appelle des émissions négatives. J'ai récemment co-signé avec mon collègue américain Jim Hansen une publication en exprimant l'idée que ces émissions négatives pourraient être un fardeau énorme pour ces jeunes générations d'aujourd'hui. Si nous ne parvenons pas à limiter les rejets de gaz à effet de serre rapidement, cela voudra dire que c'est eux qui devront payer pour des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais dont on est certain qu'au-delà des pratiques agricoles et de la conservation des forêts, elles auront un coût extraordinairement élevé. Et enfin, je voudrais terminer avec cette question, comment transmettre ce qu'on peut considérer à l'instant T comme le meilleur état des connaissances scientifiques très rapidement vers la jeunesse. Donc le GIEC va préparer pour ce 6e cycle un ensemble de rapports, 3 rapports spéciaux, les rapports des différents groupes de travail et le rapport de synthèse. Ça va mobiliser des centaines d'auteurs scientifiques, des milliers de relecteurs. Donc c'est un effort colossal de la communauté scientifique. Comment faire en sorte de transmettre cet état des connaissances? Comment pourrait-on passer de résumés pour décideurs à des résumés pour citoyens d'aujourd'hui et de demain? En fait, c'est un joli défi, parce que pour les décideurs, si on écrit plus simplement, c'est mieux aussi, je pense. Comment avoir des visualisations qui transmettent des informations complexes de manière simple? Comment écrire dans un langage simple tout en conservant les principes clés, c'est-à-dire la rigueur, la robustesse des résultats, l'exhaustivité et la transparence? Quels pourraient être les médiateurs et les ressources pour construire des outils pédagogiques s'appuyant sur ces rapports du GIEC et qui puissent être, en quelques mois, utilisés en classe, à l'école primaire, au collège, au lycée ou dans différentes formations professionnelles ou supérieures? Alors, quels sont les rapports qu'on va préparer? On va préparer un rapport spécial sur le réchauffement global d'un degré et demi à horizon 2018, sur un certain nombre de sujets liés à l'usage des terres et la sécurité alimentaire en 2019, sur les océans et la cryosphère en 2019, et puis enfin les rapports des 3 groupes de travail et le rapport de synthèse en 2021-2022. Donc il y a un calendrier précis sur les années à venir, et moi ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce travail de la communauté scientifique puisse être utile avec des outils de médiation pour être très rapidement transférés pour l'éducation très largement dans le monde. Merci de votre attention.